retrouver Jean-Pierre Caillot dans sa marmite et sur Cool Direct. Attention, ouvrez les oreilles et laissez faire les papilles. Ouvrez les oreilles et laissez faire les papilles.
Bonjour à tous, chers amis auditeurs. C'est avec grand plaisir qu'on retrouve Jean-Pierre Caillot dans sa marmite. Alors, le temps de la chronique, bien sûr.
Et bien sûr, bonjour à tous, à toutes, Cool Direct.
Le temps de la chronique, je disais, tu es sorti de ta marmite, mais tu reviendras après.
Hein. Et oui, tout à fait, oui. Oui.
Alors, pour ce mois de novembre, tu as voulu aborder plusieurs thèmes. Quels sont d'abord ces thèmes? Quel est le premier thème que tu souhaites aborder?
Alors, le premier thème, il y en a deux qui sont d'actualité, et un autre d'une prochaine actualité à partir du 1er janvier. Le premier thème, c'est la chasse. Un sujet particulier, oui. Un sujet sensible, un sujet, passionnant avec des passionnés. Et actuellement, on a pu entendre parler de plusieurs... Le gouvernement est en train d'étudier quelques restrictions au niveau de la chasse. Bon, déjà, la chasse, je pense que c'est un sport, un loisir qui se rapporte un peu au milieu rural. Donc on est en train de confronter un peu le loisir de balade dans les bois et en même temps ce plaisir de la chasse. Alors mon coup de gueule un petit peu là, parce que il faut bien que j'en ai de temps en temps, c'est que la chasse est un plaisir qui est en train de petit à petit de disparaître par le fait qu'il y a de moins en moins de chasseurs. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup moins de chasseurs comme avant qui partent pour tuer beaucoup de gibier. Il y a encore ce plaisir de la balade et de la promenade. Alors les restrictions...
C'est peut-être parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs aussi.
Oui, certainement, parce que ce milieu rural était très concerné par la chasse, parce que c'était pas d'aller se foutre le cul sur une plage où on est 15 au mètre carré, et c'est pour le paysan, pour l'agriculteur, pour le milieu rural et ou l'artisan, c'était surtout se balader dans la nature. Voilà. Alors, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on veut supprimer la chasse un demi-jour par semaine, une demi-journée par semaine, et on veut également faire des contrôles au niveau alcoolémie. Alors bon, déjà, la première des choses, c'est que...
Ça me fait penser au sketch des inconnus.
Ouais, qui n'était pas très représentatif, non. Enfin, qui était une image, mais qui n'était pas représentatif de la chasse. Donc, pour en revenir à l'alcoolémie, effectivement, bon, la chasse se pratique le plus souvent avec un fusil ou avec un arc, donc c'est des armes, et où moi je suis relativement assez d'accord, parce que bon, il y a des choses, il faut instaurer quand même un dialogue, mais je suis assez d'accord, c'est que l'on... Que quelqu'un qui détient une arme, que ce soit un fusil ou un arc, il soit dans un état à peu près, enfin je dirais pas à peu près, mais qu'il soit pas alcoolisé. Ça c'est un peu normal et ça pénalisera, je crois, c'est une bonne avancée même pour au niveau de la chasse, que quand on part de pas complètement bourré. Par contre, la chasse au niveau suppression d'un dimanche après-midi, je crois que c'est une aberration. Parce que pourquoi? Ce qu'on risque à voir, c'est que souvent, la chasse se fait dans des domaines privés, il faut pas l'oublier. C'est des propriétaires qui ont des bois, qui ont des terres. Et le risque qu'il risque d'y avoir, c'est que un jour ou l'autre, c'est que ces propriétaires ne donneront plus le droit de venir se promener dans leur bois, parce qu'après tout, pourquoi on autoriserait les promeneurs à aller dans les bois privés, je parle, et qu'on interdise les chasseurs? Alors, qu'on interdise la chasse une demi-journée ou une journée par semaine dans les domaines publics, pourquoi pas, mais dans les milieux privés, je vois pas pourquoi on interdirait cette liberté à la personne qui ne prend pas de congé, éventuellement, de pas chasser une demi-journée par semaine, le dimanche après-midi, la palombe.
Alors, l'ouverture à chasse, c'est toute l'année ou il y a des...
L'ouverture à chasse, c'est jusqu'au mois de février. Hein, pour certaines, ça dépend du gibier. Il y a les gibiers à plumes qui sont autorisés, jusqu'au mois de janvier. Et ensuite, il y a le gibier embattu qui était autorisé un petit peu plus tard. Mais il peut y avoir une entente. Aujourd'hui, signaler un territoire de chasse lorsque des personnes... il y a des battues, par exemple, ça, c'est déjà fait. Et il faut que tout le monde respecte. Il faudrait aussi que les promeneurs respectent un petit peu les endroits où ils vont se balader, parce que souvent il y a des destructions, en particulier lorsqu'il y en a qui vont chercher les champignons. Il est aberrant de voir des gens se charger et détruire toute la flore, souvent de ramasser tout et n'importe quoi. Donc il faut instaurer un dialogue, il faut que les chasseurs puissent discuter et vice versa avec les promeneurs, quoi. Hein.
Et pourquoi pas faire organiser des journées comme ça de chasse et de promeneurs en même temps,
oui, je sais pas, moi, hein. Absolument, oui, puisque la nature, bon, elle est faite pour tout le monde, mais en respectant les uns et les autres. Alors effectivement, il y a quelques accidents, mais je pense pas, enfin, qui sont toujours déplorables, et d'avoir des accidents, c'est compliqué. Enfin, quand on voit dans d'autres domaines, quand on interdit de se baigner à un endroit où qu'on fait qu'il y a une plage qui est surveillée, eh bien les baigneurs, eh bien ils vont à la plage qui n'est pas surveillée, alors qu'ils devraient aller à la plage surveillée. Donc,
c'est un peu comme les skieurs qui vont sur des...
Les skieurs hors-piste, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, quand il y a un territoire qui est chassé, je crois que c'est signalé, les chasseurs de battues ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir justement signaler leur présence par des gilets et des annonces par des panneaux sur les routes. Il faut aussi que le promeneur il fasse quelques efforts pour respecter aussi ces territoires de chasse.
Allez, on fait une pause. Est-ce que tu as fini sur le sujet de la chasse avant de...
Bon, après, il y a la palombe. J'invite aussi. Il y a eu.
On en parlera tout à l'heure.
Mais en parlant de chasse, oui. Ben, ça fait partie des traditions. Mmh. Et il faut le garder. Toutes ces traditions, parce que la chasse fait partie aussi des traditions locales. C'est pas le gibier. Hein. C'est pas le chasseur qui détruit la faune de la nature. C'est plutôt la surindustrialisation qui va la détruire. Et surtout le changement de climat, quoi.
Oui. Allez, on fait une pause. On est toujours dans la Marmite à Jean-Pierre. Et puis on revient, bien sûr, ici, sur Radio Cool Direct.
Ego la mia bandiera, il luviore che si spanna, ogni istante rausole, ogni giocco di campana, si per me l'alto vanale, a mio strada, a mio fontana, o la mia bandiera, o la mia bandiera, ti ego la mia bandiera, in ogni chi corre, in usabraccia un mare, in aianna e albore, si per me a stella ardente, grida di un messe in bulore, o la mia bandiera, o la mia bandiera, ti ego la mia bandiera, in ogni monte scurbito, non i lari, ogni leccia, non i gasta, ogni un veridu, si per me a scorza il dita di l'arburu sembra ritu, o la mia bandiera, o la mia bandiera,
io evo la mia bandiera in un pianto di l'uccello, in la mano che si vuole, in la risa di un zitello, si la mia gulana a mio bramo, mio iuelo, la mia ogni luce un prato, si per me l'ultimo anello, un mio rano, un mio viaggio con la mia ondera.
Hola.
Jean-Pierre, ça va Jean-Pierre?
Eh bien ça va.
J'ai l'impression que tu t'as affûté, non?
Ah, je me suis affûté, oui.
Alors on voit pas la radio, hein. Mais depuis que le SUA à nouveau stade, j'ai l'impression que tu attends qu'on t'appelle, en fait, quoi.
Eh, écoute, j'ai repris, j'ai arrêté un petit peu le rosé. Avec modération, bien sûr. Et j'ai repris la course.
Ah.
Alors parce qu'avant, je roulais.
En voiture, hein.
Non.
Je roulais,
tout simplement. Je me mettais en boule, mais j'avais pas besoin de faire beaucoup d'efforts parce que il y avait quand même du
ça
volume.
Ça roulait tout seul.
Mmh. Disons que le plus dur, c'était une fois avoir roulé, de me relever. Non, mais j'étais passé à un volume un petit peu excessif, donc je me suis mis à consommer un petit peu plus de légumes, un peu moins de rosé, et un peu plus de cèpe.
On va en parler justement. On va parler des cèpes et de la palombe. Alors tu attaques le sujet que tu veux.
Alors les cèpes, mais justement, le fait de la saison n'est pas une bonne saison dans notre région, dans notre Albret ou notre département du Lot-et-Garonne, parce que vu le manque de pluie qu'il y a eu depuis quelques mois, et bien on se retrouve avec il n'y a eu aucune pousse de cèpes. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu du poids aussi, hein, parce que j'ai passé plus de temps à les chercher qu'en trouver.
Tu baisses beaucoup là, du coup, pour
ouais, c'est pas trop le cas là, aujourd'hui. Il n'y en a pas, donc on se baisse pas, mais on fait un goût dans les bois. Non, mais on parlait tout à l'heure de la partie promenade, ça en fait partie, aller chercher des champignons, aller chercher des cèpes, on peut le faire en famille, mais là, c'est malheureusement cette année, alors on attend le mois de novembre avec impatience et qu'il pleuve un petit peu pour aller récupérer des cèpes. D'ailleurs, je pense qu'on fera, on vous rappellera pour vous dire où il y en a.
Une fois qu'ils sont ramassés.
Voilà, une fois qu'ils seront ramassés, mais ça va être un peu compliqué cette année parce que donc il n'y a pas eu assez de pluie. Mais voilà, la promenade pour aller chercher des cèpes peut être quelque chose de très, ben de très famille. Hein. On peut partir en famille, mais encore faut-il respecter tout le monde qui a les bois. Non, mais pour vous dire, donc pour en terminer, des cèpes cette année, l'année dernière, je crois que on avait fait une petite chronique, on avait dit qu'il y en avait.
Là,
mais cette année, il n'y en a pas. Mais voilà, c'est saison, c'est la nature.
Il n'y en a pas du tout ou il n'y en a pas beaucoup?
Il n'y en a pas, c'est très très sec,
ouais.
Peut-être dans les sables et encore, mais nous ici sur le territoire de Montgaillard, il n'y a pas une champignon, il n'y a pas une moisissure. Voilà, c'est la nature qui fait ça, et des années c'est mauvaise récolte à vigne, cette année c'est mauvaise récolte à champignon, mauvaise cueillette à champignon.
Voilà, tributaire de la nature, de la météo, donc.
Tout à fait. Et encore heureux.
Alors, encore, toujours dans la marque. Ah, Jean-Pierre, alors tu vas parler d'une autre. Tu voulais parler d'autre chose?
Je voulais évoquer la palombe.
Oui, mais c'est ça, c'est la ce palombe. Que j'allais dire. La tradition, la palombe et la palombière.
Ce qui est important, voilà, c'est les deux sont à. Je crois qu'il faut faire la différence, parce qu'on peut aller à la palombière sans qu'il y ait de palombe. C'est une cabane. Hein. Mmh. Et comme on a pu le voir là, récemment, puisqu'il y avait un documentaire qui est passé sur France 2, que vous avez certainement pu voir sur la chasse à la palombe, c'est surtout aussi dans ces cabanes respecter les traditions de retrouvailles et de repas de famille. C'est peut-être là qu'on arrive à retrouver un dialogue faire retrouver ou avoir un dialogue. Souvent les téléphones passent pas trop, donc c'est on se téléphone un peu moins, on a moins l'emprise des moyens modernes, et donc on se retrouve en famille, les femmes, les enfants, d'ailleurs les femmes qui chassent aussi à Palombe, hein, et les enfants, et c'est le moyen de se retrouver dans une cabane pour reparler des choses, des traditions, et on en apprend beaucoup, hein, dans les palombières, parce que on apprend des anecdotes qu'on se dit pas, parce qu'on se voit pas, on peut pas se les dire, parce que sur Facebook on peut toujours s'envoyer des messages, mais bon, on se les envoie pas tous, et puis surtout qu'il y en a que tout le monde ne voit sur Facebook, donc ce qu'on se dit dans les palombières,
personne ne les voit
à part la famille. Mais c'est ces moments de partage où il y a la convivialité, faire les choses ensemble, et c'est pas forcément que dans les échanges et dans les dialogues, c'est aussi par le silence des fois, voilà, le silence de cette nature qui est magnifique, surtout en ce moment puisqu'il fait encore très beau, et c'est le bruit des arbres, le bruit du silence qui est magnifique,
et le bruit du tire-bouchon aussi,
et le bruit du tire-bouchon de temps en temps, puisque vous avez modération encore,
parce qu'on rappelle, voilà, il y a le côté famille, mais on partage un repas aussi,
et oui, on partage un repas avec des produits traditionnels, et souvent c'est pas des produits d'importation, et c'est pas du McDo, c'est pas des produits qui viennent de Chine, c'est sous cellophane, c'est souvent de la garbure, du confit, les produits traditionnels qu'on avait autrefois, sans oublier bien sûr que si on peut capturer quelques palombes, parce que les palombes c'est un peu comme les cèpes,
ils n'aiment pas ça, elles sont pas un peu malignes, c'est à dire qu'elles attendent que vous soyez à table pour passer, peut-être non, elles doivent vous connaître,
elles attendent qu'on soit à table et qu'on fasse la sieste,
voilà. Elles passent après.
et souvent le plaisir de la table, on oublie de lever les yeux et de scruter l'horizon pour savoir s'il y en a. Mais bon, voilà, la palombe y est passée ces jours-ci, hein. Par contre il y est passé
c'est la
meilleure période. Il y a quelques années encore, je me souviens que tout petit, j'allais à la palombière et j'avais pas le fusil, j'avais à avoir 10 ans, avec le grand-père, et on commençait au mois de septembre. Et en plein vendage, parce que actuellement, mais les vendages en septembre sont plutôt terminés, et fin septembre, donc on commençait vers le 20 septembre. Maintenant, les palombes commencent à passer. Alors elles aussi, elles changent. Et elles commencent, faut savoir que les palombes, elles partent des pays du nord pour aller dans les pays du sud, pour aller retrouver les pays chauds, donc le bas de l'Espagne, Portugal et l'Afrique du Nord. Et donc c'est des passages qui se pratiquent maintenant, qui se font à partir du 15-16 octobre jusqu'à mi-novembre.
D'accord. Allez, on est toujours avec Jean-Pierre Caillon. On va faire une pause et puis on va parler d'un décret sur les animaux domestiques. Tu as voulu...
J'ai voulu le souligner parce que je pense que c'est une contrainte, mais c'est en même temps quelque chose qui est très très intéressant. Et on en parlera, on va en parler juste
après la pause.
Juste après la pause.
Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Et ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop superficiel. On fait que te répéter, un jour il tombera du ciel. Et c'est toujours le même discours, de belles paroles, bientôt vous serez à court. Non, aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout, je rêve que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève, aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout, je rêve d'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attrustera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Ne change. L'amour c'est beaucoup beaucoup trop conceptuel. On fait te répéter, les hommes, les femmes sont si cruels. Et c'est jamais comme au cinéma. Décidément on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que les choses toujours à elle. Ton amour n'existant pas, qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Ne change.
Les deux retours toujours dans la marite avec Jean-Pierre Caillot. Alors on est installé ici, chez lui, ferme de Lafitte, c'est beau chez toi.
Ouais, on est bien là.
On est bien.
Tu vois, c'est les endroits où j'ai partagé des choses.
C'est les endroits où tu fais tes fameuses.
Ouais, c'est l'endroit où on fait les repas, là, où les filles qui ont repris, Émilie et Corinne, qui ont repris l'activité de restauration à la ferme.
D'ailleurs, j'espère qu'un jour on les aura toutes les deux au micro pour présenter ce. On fera.
Ouais. Il va falloir.
Qu'elles viennent parler un petit peu toutes les deux là,
Tout à fait. On va les convaincre. Parce que sont plutôt dans le timide, mais dans la partie professionnelle, dans la partie organisation et réalisation. Mais on les aura au micro, oui, effectivement.
Alors, tu veux parler d'un décret sur les animaux.
C'est un décret, et je trouve que pour une fois, il y a un décret qui est, même s'il est un peu contraignant à la base, c'est un décret qui va imposer à tous ceux qui détiennent des équidés, c'est-à-dire des ânes, des chevaux, c'est un décret qui va être mis en place à partir du 1er janvier 2023.
Tu veux pas parler de ceux qui sont à l'Assemblée, non.
Non,
c'est pas cela.
Cela là, non. Quoique, il faudrait qu'ils fassent un stage, cela. Tu parlais des chevaux ou des ânes?
Des ânes.
Des ânes, ouais.
Bien que on dit toujours t'es un âne, mais un âne c'est très intelligent. Hein.
Ah, mais un âne c'est têtu.
Oui, c'est.
Mais quand ça veut pas avancer, ça va se passer. C'est comme un peu pour les bonnes lois qui sortent nos députés là.
Voilà.
Quand ça veut pas sortir des bonnes, ça tourne en rond, mais ça ne sort pas des bonnes. Non, ce décret c'est l'obligation pour chaque propriétaire. Lorsqu'il va souhaiter vendre ou acheter, donc futur propriétaire d'un cheval ou d'un âne, lorsqu'il va souhaiter être en possession d'un animal, de passer un stage, il faut une autorisation, un décret qui oblige ce propriétaire pour détenir un âne ou un cheval. Donc il y aura un stage. Alors le décret il est sorti, les documents ne sont pas encore sortis pour faire la demande, mais je trouve que il y aura un stage à faire aussi. Faut aller sur internet, vous tapez décret détention d'équidés, et donc ce stage permettra à chacun de se sensibiliser à la possession d'animaux, que ce soit même si c'est des chèvres ou autre quoi. Hein.
Des chiens aussi, non? Ou chats?
Les chiens, alors les chiens, je ne suis pas chose, tout à fait sûr, mais ça serait important aussi. Alors, peut-être pas des stages, mais il y a tellement. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui traitent les animaux, qui maltraitent les animaux plutôt.
Ouais, qui les abandonnent aussi.
Qui les abandonnent, qui prennent ça comme si c'était un sandwich, qui mange l'intérieur et puis après ils jettent le pain. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permettrait de respecter un petit peu plus la nature et se rendre compte que. Un animal n'est pas un jouet, et que ce soit une beauté de l'avoir quand il est tout petit, sauf qu'il grandit et il a besoin d'espace déjà aussi, parce que il faut pas dire on va prendre un chien alors qu'on a un 15 mètres carrés, malheureusement.
Ou un cheval dans un 15 mètres carrés.
Ou un cheval, voilà, il y a des surfaces dans la nature à respecter. Mais je crois que c'est une bonne chose parce que ça évitera cette maltraitance animale.
Ouais. Voilà, donc, et toi, alors, ici, là, quand on vient à la ferme Lafitte, eh bien, on voit que tu es entouré d'animaux, chèvres, il y a...
Il y a toujours eu des animaux, ici.
On parlait des ânes,
parlait des ânes aussi, on en a, oui.
Oui,
alors,
et des ânes,
Ah non, mais je parle pas, aujourd'hui, on en a un de plus, mais ils tiennent le micro. trop.
Marc. Je te remercie.
Non. Ah, mais tu sais, on les traite bien, les ânes.
C'est vrai. Mais à une certaine époque, on leur faisait faire tous les travaux des champs.
Tout à fait. Oui, mais ils étaient mieux traités. Parce qu'une fois qu'ils avaient travaillé, eh bien, ils étaient bien soignés et bien entretenus. Parce que, en fait, c'était un besoin de les avoir.
Et oui.
De les avoir dans les fermes. Et non, ici, on a des chèvres, bien sûr des poules. Des canards, ça fait depuis 4 ou 5 ans qu'on n'élève plus, parce qu'on n'a plus forcément le temps d'élever, mais on s'approvisionne chez des producteurs locaux, avec la difficulté qu'il y a aujourd'hui avec la grippe aviaire, malheureusement. Mais on a aussi des ânes et un cheval, on a 9 ânes, tu vois, 9 ânes. Et donc je fais appel à ceux qui seraient intéressés, mais à condition d'avoir de la surface,
oui.
Parce qu'on en cède des ânes, on va céder des ânes, parce qu'on n'a jamais voulu, on a toujours voulu les garder. Quand il y en est né un, on a voulu le garder, et puis maintenant, il se trouve qu'on est un peu envahi, et donc s'il y en a qui sont intéressés,
On te contacte à la ferme de Lafitte.
Ouais, on te contacte à la ferme de Lafitte.
Par contre, faudra venir faire un stage ici.
Voilà, alors on va faire un stage ici, on va vous peser en arrivant, on vous pèsera en partant. Si vous prenez du poids, vous avez le stage qui est validé.
Sinon.
Et si vous perdez du poids, par contre, et bien, parce que là, ce qui est rare et qui est exceptionnel, ce serait exceptionnel, vous n'aurez pas droit à avoir un âne, pas non. Le chevalet, mais les ânes.
Alors, juste, tu parlais des canards, tout ça. Alors, est-ce qu'on va manquer de foie gras pour les fêtes de Noël? Ça, c'était alors, pas dans l'émission, mais bon.
Non. Alors, c'est un sujet un peu compliqué, parce qu'effectivement, les stocks se sont épuisés, puisque durant tout l'été, il n'y a pas eu de canards. Les reproducteurs ayant été abattus à cause de la grippe aviaire. Manquer de foie gras, j'espère qu'il va en manquer un peu. Parce que s'il n'en manque pas, ça voudra dire qu'il y en a beaucoup qui vont venir des pays étrangers, malheureusement.
Effectivement.
Alors, il vaut mieux en consommer moins,
oui.
Peut-être, être sûr qu'il soit d'origine et fabriqué en France, dans notre sud-ouest ou ailleurs, puisqu'il y a des régions aujourd'hui qui se sont développées, telles que la Bretagne
et
ou l'Alsace,
oui.
pour le foie gras. Mais il devrait, il y a effectivement du foie gras d'origine France, à manquer, si on en consomme moins et qu'on l'apprécie, il n'en manquera pas beaucoup. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'au niveau du prix,
ça risque
d'être cher.
Oui.
C'est cher, ça a augmenté de l'ordre de 20 à 30%. Et j'ai peur pour les dernières semaines de décembre, à partir du 15 décembre, que les rayons soient un petit peu dévalisés. Ou que malheureusement, il y a de l'importation et qu'on s'habitue, comme pour les vins aujourd'hui, à consommer des produits qui viennent d'autres pays et qui soient pas ou dans lesquels on respecte pas forcément les mêmes règles d'hygiène et de traçabilité. Ouais. On le voit d'ailleurs un petit coup sur les pays étrangers. Alors je dis pas qu'on fasse des mauvaises choses, mais par exemple, on a actuellement des articles qui sont passés sur le trafic de vin avec l'Espagne, qui fait que normalement ça devrait pas rentrer en France tous ces produits et surtout être mélangé avec nos vins français, alors qu'en France, on a une année qui est un peu compliquée au niveau de la consommation, et puisqu'on a beaucoup moins de consommation de vin, et on a un peu de surplus de production. Quoi. Voilà. Donc, et on va chercher, et c'est pas étonnant, parce que si on va chercher du vin en Espagne pour faire croire que c'est du vin produit en France, c'est pas compliqué. Là aussi, il y aurait des choses à faire et à respecter. Malheureusement, c'est encore compliqué.
Eh bien voilà, on va tourner la page. Comme
j'ai été sage aujourd'hui.
Très sage. D'ailleurs, je te reconnais plus. Mais je comprends pas. Que s'est-il passé? C'est le nouveau Jean-Pierre Caillot.
L'âge de la retraite, la méditation fait que je suis un petit peu plus sage. Non, on prépare une fin d'année qui va être assez importante, parce qu'on fait la fête du chapon et la fête de la dinde.
Vous la faites ici toujours?
On la fait toujours ici, là, elle est en train de se préparer là au niveau des réserves, que ce soit des terrines ou des plats et du chapon. Donc ça se fait à Vianne, ça va commencer à partir du 16 ou du 17 novembre et on va être à peu près 4000 et quelques personnes à se retrouver sur une grosse vingtaine de journées avec des animations musicales pour lesquelles il y a un cabaret qui vient, il y a celui qui est le sosie, je dirais, de Maybrand, Claude Arena, et de la danse, l'accordéon avec Jacques et Maryse, Bernard Audi aussi, un spectacle Joe Dassin, voilà. Un programme très riche à ne pas louper. Il y a encore quelques places à prendre.
Oui, parce que ça va vite, les réservations.
Très vite, oui. L'après-Covid a fait que les gens, les assos, tout ça, les associations ont voulu sortir, et heureusement, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver.
Merci. Rendez-vous le mois prochain. J'espère que là, au mois de décembre, on risque de faire quelque chose. Là, on parlera un petit peu pour cette marmite. Merci Jean-Pierre d'être sorti. Maintenant, tu as l'autorisation d'y retourner.
Merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous. Et dès qu'il y a des cèpes, on n'oubliera pas de vous en parler. Si vous n'avez pas d'appel, c'est peut-être que la ligne est déraillée.
Ou qu'Internet est coupé.
Ou qu'Internet est coupé, voilà.
Merci bien.
On va faire comme TF1.
Oui.
On va couper la chaîne, comme voilà. Ça, on ne sera pas emmerdé par les publicités.
Merci Jean-Pierre.
Merci à vous.